Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une annonce que j'ai oubliée, c'est que pour tous ceux qui sont intéressés par la retraite, rappelez-vous donc, vous avez les feuilles jaunes à l'entrée de la chapelle, à l'entrée de l'église. Pour les trois prochaines retraites, je suis presque plein pour chaque retraite. Donc pour ceux qui veulent venir, n'attendez pas le dernier moment. Je crois que j'ai une ou deux places par retraite, guère plus. Donc encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire à ce qui est vous longtemps en avance, vous êtes sûr d'avoir des places. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'Église a choisi pour ce troisième dimanche de carême de texte bien important, un texte de Saint-Luc, chapitre 11, et un texte de l'Épître aux Éphésiens de Saint-Paul. Et il faut évidemment associer les deux textes pour comprendre l'esprit de l'Église dans ces textes liturgiques tellement importants. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Notez qu'il y a deux parties dans cette phrase. Écouter la parole de Dieu, première partie, deuxième partie, la mettre en pratique. Qu'est-ce qui est difficile ? Première partie ou la deuxième partie ? Évidemment, c'est la deuxième partie. Facile d'écouter la parole de Dieu. N'importe qui peut le faire. Mais un bandit qui n'a aucune intention de se convertir pourrait écouter la parole de Dieu. Donc écouter la parole de Dieu, c'est la foi. La mettre en pratique, c'est la charité. Et la foi sans la charité ne vaut rien. Saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est une foi informe. Foi informe, c'est-à-dire une foi qui est moribonde, une foi qui n'est pas encore morte, une foi qui n'est plus alimentée, un peu comme une fleur, si vous voulez, qui n'est plus arrosée pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, évidemment, la fleur va dépérir, et si on n'arrose pas du tout pendant plusieurs mois, elle finit par mourir. Donc il ne faut jamais oublier cela, mes bien chers frères. La foi catholique, ce n'est pas simplement quelque chose de spéculatif, ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. C'est une praxie. Et de quoi une praxie ? C'est une pratique. C'est le luthéranisme, le protestantisme qui a justement séparé la foi de la charité. L'Église de Vatican II fait exactement la même chose. On sépare la foi de la charité. La charité, c'est quoi? Attention, la charité, il ne faut pas penser, quand on parle du mot charité, la charité naturelle, la charité surnaturelle, la vertu théologale de charité. La vertu qui nous fait aimer Dieu. Comment prouve-t-on à Dieu qu'on l'aime? Est-ce qu'on prouve à Dieu qu'on l'aime en allant aider les pauvres dans la rue? Non. On prouve à Dieu qu'on l'aime d'abord en remplissant la loi du bon Dieu, à savoir en suivant les 10 commandements de Dieu. Donc quelqu'un qui prétend aimer Dieu, quelqu'un qui prétend croire en Dieu et qui ne suit pas ses commandements, c'est un menteur. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'Église nous demande de mettre la foi avec la charité. Encore une fois, la foi sans la charité est une foi morte. L'Esprit de Saint-Jacques le dit expressément. Donc la charité, c'est quoi? La charité, ce sont les œuvres de la foi. La foi qui passe dans la pratique de la vie de tous les jours. On ne juge pas. Un cœur catholique, par sa façon de croire. On juge un cœur catholique, par sa façon de vivre. Pas pareil. J'étais pendant un temps aumônier d'une école de dominicaine quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. C'était le gros problème. On voyait les jeunes filles, quand je célébrais la messe dans cette école, on voyait les jeunes filles qui avaient toutes l'air de petits anges. Elles venaient communier avec une petite voilette sur la tête, avec les petits jupes plissées, tout était impeccable. Et je leur disais, quand je vous vois communier le dimanche en semaine, c'est magnifique, on a l'impression de prêcher à des anges. Seulement, ces jeunes filles, dès qu'elles étaient le vendredi soir dans le train qui les ramenait dans leur famille, sitôt le train avait quitté la plateforme de la gare, filaient aux toilettes et se changeaient pour se mettre en jean. Et je leur disais, vous êtes des révolutionnaires parce que vous n'avez rien compris. Encore une fois, je ne juge pas une école sur la façon de se comporter à la messe, je juge une école sur la façon dont les enfants se comportent pendant les vacances quand ils ne se croient pas surveillés par les prêtres et leurs parents. Et c'est exactement ce que nous dit notre Seigneur. Et il faut associer ça au texte de Saint Paul, au texte de Saint Paul aux Éphésiens. Qu'est-ce que nous dit Saint Paul? Saint Paul va nous rappeler que le vice principal qui va souiller l'âme, c'est le vice de l'impureté. et il donne un conseil que je suis toujours, surtout quand je prêche les retraites, que ce vice-là ne soit pas même nommé parmi vous, dit-il. Il faut éviter même, dit-il, la tunique souillée par la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas en parler. C'est-à-dire que quand je prêche les retraites, je fais l'examen de conscience, j'explique l'examen de conscience dans le troisième exercice, la première partie des exercices saint-Ignace, je ne parle même plus des péchés d'impureté. Je donne l'examen de conscience, chacun après s'examine en privé, mais il ne faut surtout pas trop en parler parce qu'on ne fait qu'augmenter les tentations. Ceci, évidemment, ne veut pas dire que ces péchés ne sont pas graves. Malheureusement, il y a toujours matière grave. Attention, quand on parle d'impureté, il n'y a pas toujours faute grave, mais il y a toujours matière grave. Parce que c'est un péché particulièrement sale, je dirais, qui va mettre vraiment le bon Dieu dehors très facilement. C'est le seul péché, on peut dire, que le démon ne commet jamais. Le démon ne peut pas commettre le péché d'impureté, il commet le péché d'orgueil. Il a un tel mépris pour le péché d'impureté, il fait faire aux autres, il ne le fait pas lui-même. Alors, mes bien chers frères, reprenons un petit peu le texte de l'Évangile qui complète celui de l'Épître de Saint Paul. Notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer bien les choses en disant que les idolâtres et les fornicateurs ne posséderont pas le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un idolâtre? L'idolâtre, c'est quelqu'un qui adore un faux Dieu. Quand on parle d'idolâtrie aujourd'hui, la plupart des gens le regardent avec des yeux ronds en disant « Monsieur l'abbé, ça ne se fait plus dans le monde moderne. » L'idolâtrie, c'est d'adorer le soleil, la pierre, les étoiles ou les arbres. Non, ce n'est pas ça. L'idolâtrie, c'est de faire passer une créature avant le bon Dieu. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, d'extrêmement fréquent. Le nombre de personnes, par exemple, qui sont capables aujourd'hui de manquer la messe du dimanche simplement pour un match de football. C'est ça l'idolâtrie. Donc il faut se poser notre question aujourd'hui en lisant ces textes sacrés de l'Écriture sainte. Est-ce que dans bien des fois je ne fais pas passer une créature avant le bon Dieu? C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer une créature et donner à une créature, quelle qu'elle soit, l'honneur qui est dû à Dieu seul. Donc il faut vraiment se poser la question pour savoir est-ce que je garde dans mon cœur l'idolâtrie qui va m'amener justement à l'impureté. Et Saint Paul le dit expressément, l'Évangile nous dit expressément que les idolâtres et les fornicateurs ne posséderont point le royaume des cieux. Le bon Dieu nous explique bien qu'il y a un lien entre les deux choses. Il y a un lien entre, d'une part, l'idolâtrie, et l'idolâtrie amène au péché contre la pureté. Relisez le premier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est expressément dit. Et tous les vices contre nature qui envahissent le monde aujourd'hui sont dus au péché d'idolâtrie, l'adoration des créatures. Et évidemment, lorsque le démon a possédé une âme par ce genre de vice, une fois qu'il est mis dehors par une bonne confession, par une bonne communion, eh bien, il va sortir et essayer de revenir. Et il va revenir, nous dit l'Évangile, avec 7 démons pires que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas supporter l'humilité. Le démon ne peut pas supporter les humiliations en général. Dans les Pères du désert, un passage dessus qui est très, très éclairant. Le démon qui apparaît à un solitaire, c'est des pénitences épouvantables en plein désert, en Égypte. Et ce solitaire faisait des miracles extraordinaires justement à cause de sa vie de prière, sa vie d'adoration, sa vie de foi, d'espérance et de charité. Et un jour, le démon lui apparaît furieux en lui disant « Tu dors très peu, moi je dors jamais. Tu manges pratiquement rien, moi je mange jamais. Il n'y a qu'une seule chose que tu fais que je ne peux pas faire. M'humilier. » La réponse qu'il a donnée. M'humilier, je ne peux pas m'humilier. C'est pour ça que le vice de l'orgueil, justement, amène à tous ces péchés-là. Alors, il faut demander au bon Dieu cette grâce de savoir mettre tous ces vices impurs en dehors de notre âme, le plus loin possible, pour que précisément la porte de notre âme soit grande ouverte et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse revenir. Si notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas dans une âme qui a été touchée par ce vice d'impureté, c'est le démon et 7 démons avec lui, c'est-à-dire les 7 péchés capitaux qui vont envahir cette âme et tout détruire de l'intérieur. Il y a dans le texte d'aujourd'hui un autre avertissement du bon Dieu. Je pense que c'est peut-être une des phrases les plus importantes des 16 évangiles. Notre Seigneur en Saint-Luc nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela est une conséquence d'une autre phrase de l'Évangile. « Nul ne peut servir de maître à la fois. » Où il adorera le premier et haïra le second, ou il haïra le premier et adorera le second. Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas partager sa gloire avec la gloire du démon. Pour cela que l'idolâtrie est un des péchés, peut-être le pire de tous les péchés. Parce que par l'idolâtrie, on voudrait partager la gloire du démon avec une créature, avec la gloire qu'on rend à une créature. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien qu'il n'est pas avec moi et contre moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec des mots modernes, que le bon Dieu nous demande de le suivre à 100%. Dieu n'accepte pas, il ne peut pas supporter des catholiques qui sont catholiques à 90%, 95%. Je vous donne un exemple tout simple pour vous aider à comprendre ce que je veux dire, parce que c'est très important. Imaginez que vous apprenez le calcul à un petit garçon qui a 6 ans ou 5 ans. Vous lui apprenez à faire des petites additions toutes simples pour développer déjà son intelligence, lui apprendre à compter. Et vous lui demandez 6 plus 4, ça fait combien? Si l'enfant est doué en mathématiques, il a compris, il va vous répondre, ça fait 10. Et s'il a répondu, ça fait 9, ça fait quoi? C'est faux. Ça vaut 0. S'il répond 6 plus 4, ça fait 5. Ça fait quoi? C'est aussi faux, c'est zéro. Donc on ne peut pas dire, comme disent les modernes, oui mais s'il a répondu 6 plus 4 ça fait 9, c'est plus proche de la vérité. Donc dans ce cas-là, on va lui mettre 9 sur 10 ou 18 sur 20 parce qu'il n'est pas très loin de la vérité. Non, parce que 6 plus 4 égale 9, c'est faux. Il n'y a aucune différence entre dire 6 plus 4 ça fait 9 ou 6 plus 4 ça fait 2. Dans les deux cas, c'est zéro parce que c'est faux. C'est la même chose dans la vie spirituelle, mes bien chers frères. La même chose dans la vie spirituelle. Si quelqu'un dit, oh mon Dieu, je vous aime en toutes choses, je suis tout au commandement sauf un. Si ça ne me plaît pas. Ou quelqu'un qui dit, les commandements du bon Dieu, j'en suis aucun. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, nous avons quelqu'un qui refuse la foi du bon Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un, un catholique qui se dise « Je suis le commandement du bon Dieu 9 fois sur 10, je suis donc meilleur dans ma foi catholique que quelqu'un qui n'en suit aucun. » Non, monsieur. Dans les deux cas, vous n'avez pas la foi du tout. Parce que quelqu'un qui suit la foi catholique dans tous les commandements sauf un, dit oh, « mon Dieu, vous êtes brave, je vous aime bien. » Et voyez-vous, dans un cas sur 10, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous vous trompez. Et quand on dit, oh mon Dieu, vous vous trompez, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, mon Dieu, vous vous trompez parce que vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes Dieu, Dieu ne peut pas se tromper. C'est exactement ce qu'explique, ce que veut expliquer notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est ça que ça veut dire. Et bien, ce que je viens de vous dire sur la pratique des commandements se traduit aussi dans la vie de tous les jours. Je viens de vous dire que la foi est une praxie, la foi doit passer dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui nous dirait donc, monsieur l'abbé, moi je suis catholique en tout, sauf dans mes goûts sur la musique, par exemple. Là, sur la musique, non, je mets le bon Dieu dehors et j'écoute du rock'n'roll toute la journée. Qu'est-ce que va vous dire le bon Dieu? Qu'est-ce que va dire le bon Dieu une personne comme cela? Tu prétends m'aimer en tout, mais à cause de l'amour que tu as pour la musique rock, tu prouves que tu n'es pas vraiment un ami et tu es en fait un ennemi. Imaginez, ce sont des exemples. Imaginez une jeune fille qui dit, voilà, j'aime le bon Dieu en toutes choses. Je suis toute la foi catholique en tout, sauf de ma façon de m'habiller. Dans la pratique, je m'habille comme une fille publique dans la rue. Eh bien, le bon Dieu aura le droit de dire à cette jeune fille, le simple fait que tu t'habilles comme une fille publique dans la rue, prouve qu'en fait, tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Entrera dans le royaume des cieux celui qui agit comme un catholique. C'est ça le drame, mes bien chers frères. On touche le problème numéro un qu'ont beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes viennent nous dire, on explique très bien ça avec les exercices Saint-Ignace, c'est ce que sans toute l'aide dans les exercices. Beaucoup de jeunes nous disent, mais monsieur l'abbé, être catholique aujourd'hui, c'est dire non tout le temps. C'est exact. Un catholique, c'est quelqu'un qui dit non. Mais quelqu'un qui sait dire non quand il faut dire non, c'est quelqu'un qui est fort. Au contraire, quelqu'un qui accepte de suivre L'esprit libéral actuel, c'est quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui laisse les portes de son âme toutes grandes ouvertes. Évidemment, le démon peut venir et faire venir avec lui sept démons pires que lui. Donc, bien cher frère, en ce temps de carême, je pense qu'il est important que tous, vous et moi, nous fassions un peu un examen de conscience. Vous nous posez la question suivante. Est-ce que je suis un catholique à 100%? Est-ce que je prouve que je suis un catholique en tout ce que je fais? On doit prouver qu'on est un catholique dans la façon de vivre, dans la façon de s'habiller, dans la façon de la musique qu'on écoute, dans les lieux de détente qu'on utilise, dans sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie professionnelle. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est catholique. C'est Ernest Hello qui avait dit, vous pouvez faire croire que vous êtes catholique. Mais votre absence de haine de l'erreur vous montrerait que vous ne l'êtes pas. Et quelqu'un qui est catholique à 95%, c'est quelqu'un qui a perdu la haine de l'erreur. Qui dit Digitis Dominum audite malum, dit le psaume. Ça veut dire quoi? Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Encore une fois, ce n'est pas en prétendant aimer le Seigneur qu'on prouve qu'on l'aime, qu'on est avec lui, c'est en haïssant le mal. Et s'il n'y a pas cette haine du mal, il n'y a pas l'amour du bon Dieu. Parce que les deux choses doivent travailler ensemble, comme les deux doigts d'une même main. Donc posez-nous cette question toute simple, est-ce que j'ai suffisamment de haine pour le mal? Est-ce que j'ai de la haine pour le péché? Un chrétien qui dirait, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, mais je n'ai pas vraiment de haine pour le péché, je garde ça quand même tranquillement dans ma poche, c'est quelqu'un qui en fait n'aime pas notre Seigneur. Ah, mais bien cher frère, il nous faut demander en cette fête de Saint-Joseph, même si liturgiquement parlant, le dimanche de carême, passe au-dessus de la fête de Saint-Joseph qui est reportée aux deux premiers jours libres, à savoir lundi. Eh bien, Saint-Joseph est un des plus grands saints de l'Église. Sainte Thérèse d'Avila avait l'habitude de dire, il n'y a pas une seule chose que je n'ai demandé le jour de sa fête que je n'ai obtenue. Donc, qu'est-ce qu'il faut demander dans ce jour de la fête de Saint-Joseph? Demandons, mes bien chers frères, ces deux choses, l'amour de Dieu et la haine du monde. L'amour de Dieu et la haine de l'erreur. L'amour de Dieu et la haine du mal. Et si nous n'avons pas cette haine de mal, nous n'avons pas vraiment l'amour du bon Dieu. Donc il faut demander les deux choses, savoir les réunir devant le bon Dieu, pour que justement notre foi puisse être prouvée par notre façon de vivre. Encore une fois, ce n'est pas par notre foi que nous prétendons être catholiques, par notre façon de vivre. Et donc il faut que, je dirais, même quand on vit dans des milieux de païens, ce qui est le cas maintenant pratiquement tout le temps, on est obligé de vivre dans des milieux païens sur le plan social et professionnel, sur le plan professionnel, il faut que par notre façon de vivre, nous puissions prêcher. Il faut que les gens qui voient un catholique dans le travail, dans son milieu professionnel, qui voient un catholique agir comme catholique, puissent se dire, celui-là est catholique, ça doit tout de suite. Parce que lui, il est honnête, il ne cherche pas à voler à longueur de journée dans l'entreprise, il fait ce qu'il doit faire, remplit son devoir d'État, il doit être catholique. Il faut le voir. Alors demandons, bon Dieu, cette grâce, mes chers frères, savoir ouvrir nos yeux. Le carême, c'est fait pour ça. Le carême, c'est fait pour ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir, suis-je vraiment catholique dans ma façon de vivre? Est-ce que je suis catholique à 100%? C'est-à-dire qu'est-ce que je suis catholique dans tout ce que je fais, dans tout ce que je touche? Ceux qui pensent qu'on peut marier ensemble les principes de l'Évangile et les principes du monde moderne sont des fous. On appelle ces fous les catholiques libéraux. Et tous ceux qui ont essayé de faire ces choses-là sont allés droit dans le mur, comme on dit vulgairement. Pourquoi? Parce que justement, ils essayaient de cohabiter avec des principes qui sont impossibles. Qu'on ne peut pas mettre ensemble. Quels sont les principes de l'Évangile? Pauvreté, chasteté, obéissance. Quels sont les principes du monde? Liberté, égalité, fraternité. Comment voulez-vous mettre ensemble ces deux principes? Ils sont complètement opposés. Je me rappelle le scandale qu'avait fait Mgr Lefebvre à un sermon. Pourtant, il avait bien raison. Il avait dit une fois en plein sermon, quand on marie ensemble deux personnes qui ne sont pas supposées vivre ensemble, au lieu d'un mariage, au lieu d'enfants légitimes, on obtient des enfants illégitimes. Et c'est exactement ce que c'est. Il a même utilisé un mot plus fort. Il a dit, quand on met ensemble des gens qui ne sont pas supposés être ensemble, au d'avoir des enfants, on a des bâtards. Le mot qu'il avait utilisé. Il fait sursauter tout le monde dans l'église. Pourtant, il avait raison. Donc essayons de nous poser la question, est-ce que je n'essaye pas, par ma façon de vivre, de mettre ensemble deux principes qui sont incompatibles? Est-ce que je peux mettre dans ma vie de tous les jours et l'amour du bon Dieu et l'amour du monde? Réponse est non, impossible. C'est précisément pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour bien nous faire comprendre que nul ne peut prêcher, suivre deux maîtres à la fois, ou notre Seigneur ou le monde. Alors nous demanderons à Saint Joseph, mes bien chers frères, cette force qu'il a eue, lui-même, en menant la Sainte Famille, toutes ces vertus extraordinaires de Saint Joseph, justement pour conserver l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ sans que ce dernier soit détérioré par l'esprit du monde. Nous demanderons aussi à une autre grande sainte, la plus grande sainte du ciel, après notre Seigneur, bien sûr, notre Sainte Vierge Marie. Nous demanderons cette grâce de savoir refuser l'esprit du monde, savoir mettre dehors de notre âme, de notre famille, de notre vie de tous les jours, les choses qui n'ont rien à voir avec une vie de chrétien, parce que précisément, ce sont des choses qui, dans toute leur essence même, s'opposent à la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on ne peut pas être catholique à 80 ou 90%. On est catholique à 100% ou on n'est pas catholique. On aime notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait et on désire l'aimer, c'est pour ça qu'on se confesse régulièrement, on désire l'aimer de plus en plus, au contraire on accepte l'entrée du monde dans notre âme et à ce moment-là tout est détruit. Nous demanderons ces grâces à Notre-Dame parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne refuse jamais ses grâces à ceux qui les demandent avec humilité et toutes les grâces passent par sa mère parce que c'est ce qu'il a voulu. Alors demandons à notre Seigneur Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses-là et à les mettre en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.